بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية شفاعاً الإسلام لغمسي الله عز وجل qui nous donne tawfiq de nous réunir ce soir pour étudier quelques versets de la sourate Al-Haqqa. La semaine dernière, on avait essayé de se rappeler un petit peu ce qui avait été déjà expliqué au mois de Sha'ban, et on avait vu donc que Al-Haqqa, c'est l'inévitable, mais également celle qui montre la vérité. Pourquoi ? Parce que le jour de Qiyama, la vérité apparaît. Il n'y a plus d'hypocrisie, il n'y a plus rien qui est caché, et c'est là qu'on voit la destinée des gens, c'est là qu'on voit la réalité de la foi, c'est là qu'on voit qui étaient les vrais muttaqin, les vrais pieux, et qui étaient les munafiqin, les hypocrites, qui sait qui était dans le droit chemin, parce que tout le monde prétend être dans le droit chemin, tout le monde prétend être dans le vrai. Et c'est le jour de Qiyama que nous voyons ces vérités, qu'Allah nous accorde la fraîcheur des yeux, le jour de Qiyama et le plaisir d'être ressuscité auprès des annabiyyin, wa siddiqin, wa shuhada'i, wa salihin. Allahumma amin. On avait vu également que la sourate démarre avec l'exemple des peuples précédents, les peuples qui ont été détruits par Allah parce qu'ils ne croyaient pas en l'au-delà. Le point commun entre tous ces peuples qui ont été détruits, Samoud et Aad, c'est qu'ils ne croyaient pas en l'au-delà, la fin du monde, la résurrection et surtout la vie après la mort. Et nous allons voir par opposition, si on arrive à ces versets aujourd'hui, celui qui reçoit son livre de compte dans la main droite, ben c'est parce qu'il avait une conviction sur le Yawmul Akhir. En fait, la foi en l'au-delà, c'est ce qui nous motive, c'est ce qui nous donne la force de croire, c'est ce qui nous donne la possibilité donc de trouver l'énergie pour accomplir des bonnes actions, pour rester ferme dans le droit chemin et de lutter, de résister contre les pulsions, contre tout ce qui nous pousse vers le mal. Nous vivons dans un monde de corruption, dans un monde de fitna, dans un monde où on est entouré de sources de mal, et il est tellement facile de se laisser aller, il est beaucoup plus facile de glisser que de se raccrocher à quelque chose et de grimper, de rester ferme. Ben, la personne qui suit ses passions, automatiquement, ses passions vont lui mener vers le plus mauvais des chemins. Et plus il y a des fitnas, plus il y a des sources de mal, de péché, ben, plus notre nafs s'installe et notre nafs s'étale. Il se renforce jusqu'à devenir « Afara'ayta man ittakhadha ilahahu » Hawahu, nasallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui prennent le hawa, c'est leur passion, leur envie comme ilah, comme divinité. De quelle façon ? Ton Seigneur, c'est celui qui tu obéis. Chaque ordre de ton Rabb, tu obéis, tu t'y conformes. Mais lorsqu'une personne suit son nafs aveuglement, sans qu'il y ait la moindre réflexion, sans qu'il y ait la moindre manifestation de taqwa, de piété, de recul, sans qu'il y ait la possibilité de dire non, parce qu'il y a la limite d'Allah, il y a les interdits, et que la personne donc suit son nafs aveuglement et intégralement, c'est comme si qu'il a pris son nafs comme une divinité, d'où le verset « Afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa » Nous devons faire extrêmement attention. Parfois, le nafs, vous savez, le nafs se nourrit de notre acceptation. Quand on a suivi notre nafs vers un péché, ben, le nafs se renforce. Et à un moment donné, il a de l'emprise sur nous. D'où l'importance du saum, du jeûne, qui nous permet vraiment de, d'où l'expression qu'enfin, on a l'habitude de dire, casser le nafs, lutter contre le nafs, aller à l'encontre de ce que tes passions te demandent. C'est l'importance du jeûne, c'est cette thèse qu'il y a, cette purification donc intérieure. On revient, on ne s'éloigne pas de Al-Haqqa. Donc ces peuples ont été détruits parce qu'ils ne croyaient pas en l'au-delà, et il y a la description de leur châtiment, leur adab. Et le texte que le matin que je cherchais la dernière fois, que je ne trouvais pas, qui était cité par Ibn Jarir, il dit que c'est pas Ibn Jarir, c'est l'opinion de Abi Talib. Ça s'appelle comment ça, l'opinion d'un sahaba dans la science? On va dire extrêmement précise de Ulum al-Hadith, ça s'appelle Mawquf. Mawquf, c'est citation d'un Sahaba. Mais une citation qui ne remonte pas au Prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'il remonte au Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça s'appelle comment? Hadith. Si c'est la citation d'un Sahaba, c'est son avis, son opinion. Mais il n'a pas dit que, si le Prophète l'a dit, après il y a deux façons de voir les choses. Hukm al-Raf'a. Sachant que ce qu'il dit, c'est quelque chose de très précis, et qu'un sahaba n'aurait pas pu dire quelque chose d'aussi précis s'il ne l'avait pas entendu, on peut dire que c'est mawquf, c'est la citation de tel sahaba, mais qui, sans le moindre doute, remonte au prophète. Ou alors, si on voit vraiment, c'est un avis, comme un tafsir, par exemple, on appelle ça mawquf. Et pour vous montrer la précision des ulama al-hadith, les mawquf ne sont pas hujja. Les mawquf, les citations des sahaba ne sont pas suffisantes pour être des dalils, pour être des preuves, pour valider une action ou l'interdire. Tant que ça ne remonte pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ajib ça. C'est pour vous montrer comment est-ce que notre din est précis et parfait. Quand on vous dit que ça c'est sahih, Bukhari, Muslim, Ibn Majah, Tirmidhi ou autre, sachez que vous pouvez le mettre en pratique les yeux fermés. Et j'allais dire sur vos deux oreilles, reposez-vous sur l'avis des savants. Nous avons cette chance dans notre dîn d'avoir la transmission de ilm par les chaînes de narration, et les savants, les ulama à toutes les époques qui se sont transmis jusqu'à marhalatut tadwin, jusqu'à l'époque où il y a eu l'écriture, enfin pas eu l'écriture, mais il y a eu la possibilité de mettre par écrit tous les hadiths. Et c'est la seule religion où on peut mettre une action en application avec les preuves et ramener l'action au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et rien de ce dit ne peut être accepté tant qu'il n'y a pas de dalil de chaîne de narration. Donc, Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, alors son tafsir, on l'a, a dit lam tanzil, il n'y a pas eu une goutte d'eau qui est descendue du ciel, min ma'in illa bikaylin, il n'y a pas eu une goutte d'eau qui est descendu du ciel, on parle de la pluie, sans que cette eau-là ne soit accompagnée d'un ange. فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ نُوحٍ أُذِنَ لِلْمَاءِ دُونَ الْخَزَّانِ. Elle dit, sauf à l'exception du déluge de Noé, le déluge de Hazrat Nuh alayhi salam, là, la pluie, l'eau est tombée sans limite et sans raham, sans pitié, sans rahma. En urdu, on dit sans rahma, sans compassion, sans pitié. Udina lil ma'i dun al khazan, fatara al ma'u ala al khazan. Et donc l'eau, et puis on connaît comment ça s'est déroulé, le déluge. Et puis, il y a, la fin de la citation. Walam yanzil shay'un min ar-rih, pareil. Le vent, quand le vent souffle, ben, c'est accompagné d'un ange. Illa yawm 'ad. À l'exception du jour où le châtiment s'est abattu sur le peuple de Ad. فَإِنَّهُ أُذِنَ لَهَا دُونَ الْخَزَّانِ. Le vent a eu l'autorisation de se répandre et de détruire sans limite, sans qu'il n'y ait un contrôle de la part des malaïkas. Donc, destruction de ces deux peuples. Ensuite, nous avons, je ne sais pas si on avait lu le verset avec وَجَاءَ فِرْعَوْنُ. وَجَاءَ, où est-ce qu'on est ? بسم الله فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وجاء فرعون ونفسين نف ومن قبله والنفسة والمؤتفكات بالخاطئة لفسين نف فرعون et ceux qui vécurent avant lui ainsi que les villes renversées commirent des fautes. Pharaon, on connaît. Les villes renversées, ça fait référence à quel peuple? Lot alayhi salam, lorsque le châtiment s'est abattu sur le peuple de Lot alayhi salam, son peuple a été pris et le village même est monté jusqu'aux cieux, ça a été retourné et ça a été projeté vers le sol Et puis il y a eu la pluie de pierre, c'était un châtiment terrible, le châtiment du peuple de Lot alayhi salam. Et pour Pharaon, alors qu'est-ce qu'Ibn Kathir rahimahullah nous dit à propos de Pharaon? Wa man 'indahu ay les autres empereurs ou les autres tyrans qu'il y a eu avant, parce qu'il y a eu plusieurs pharaons. Pharaon, c'est pas une personne, c'est un titre, comme César, comme pour les Perses, c'était quoi encore? Qaisar. Après, je ne sais pas l'équivalent en français, c'est quoi. Donc, ainsi que les tyrans qui sont venus fil zamanihi à son époque, ou avant, ou après, non pas après, après il n'y a plus de tyrans à son époque, minal umamil, parmi les peuples qui avaient, on va dire, le même mode de fonctionnement que le peuple de Pharaon. Et ce qu'on retient également, là je sors un peu d'Ibn Kathir, voyez, je ne pense pas qu'il y a eu une civilisation où le mulk, la royauté, avait atteint son apogée, comme à l'époque de Pharaon. Pharaon qui est arrivé à un tel degré où il s'est permis de dire « Ana rabbukumul a'la », il a osé dire que c'est moi votre Seigneur, et il est rapporté que lorsque, justement là c'est le bientôt, c'est après demain le 10 Muharram, lorsque Moussa alayhi salam a pris la direction de la mer avec les Banu Israël, lorsqu'on décrit l'armée de Pharaon qui les suivait, on parlait d'une armée de plus d'un million d'individus. Une armée de plus d'un million de guerriers, de combattants. Ça montre quel était le pouvoir de Pharaon. Et malgré ça, lorsqu'Allah Azza wa Jal a décidé de détruire Pharaon, il n'y a plus de traces de Pharaon. Et on a eu l'occasion, en maintes reprises, d'expliquer comment est-ce que Pharaon a été détruit et comment sa destruction, c'était la destruction la plus kamila, la plus complète. Il aurait été impossible de détruire le peuple de Pharaon d'une façon aussi large. Son armée, quand on a dit plus d'un million de personnes, quelle autre façon que de les faire tous périr dans la mer? L'élément le plus vaste, il y a plus de thé ou de mer? De mer. L'élément le plus vaste sur ce dunia, ben c'est là, c'est le seul élément qui pouvait contenir une armée aussi importante. Et le plan d'Allah, le makrullah, ce qu'Allah avait prévu, les laisser passer, entrer dans cette mer qui s'était ouverte pour Moussa alayhi salam, et donner encore une fois l'occasion à Pharaon de délirer et de dire que cette mer s'est ouverte pour moi parce que je suis Pharaon. Ça montre que quand quelqu'un est dans le coufre, ben il est dans le coufre, ses yeux sont dans le coufre, ses oreilles sont dans le coufre, sa langue est dans le coufre, parce que son cœur est dans le coufre, dans le volumat, dans l'obscurité qu'Allah nous protège, qu'il voit un signe évident de la prophétie de Moïse, de Moussa alayhi salam, cette mer qui s'ouvre, et il n'obtient pas la hidayah. Ou alors, il sait que c'est haq, mais qu'est-ce qu'il y a dans le cœur qui l'empêche de dire la ilaha illallah? Al-kibr, la fierté, l'orgueil. C'est ce qui a détruit Abu Jahl, c'est ce qui a détruit Abu Lahab, et les zu'ama Quraysh, tous les amis du Prophète sallam, et d'une façon générale, la règle c'est que la kibre, l'orgueil, la fierté, c'est ce qui a causé la destruction des leaders, des meneurs, de ceux qui étaient contre les Anbiya alayhim salatu wassalam. Donc, pourquoi est-ce qu'on insiste sur la puissance de Pharaon et de son armée? Parce qu'il y a le verset de conclusion qui nous intéresse. Vahal tara lahum mim baqiya, en vois-tu le moindre vestige? Qu'est-ce qui est resté de tout ce qu'ils avaient construit? Qu'est-ce qui est resté du royaume et des biens de Pharaon? Et il n'y a plus de Pharaon après lui. Il n'y a plus de tyran parce que toute sa famille a péri. À l'exception d'une personne, selon l'avis de certains savants, c'est celui qui donnait de bons conseils. C'est le seul qui se permettait dans la cour, c'est-à-dire auprès de Pharaon, de dire, qui a les versets en tête? Yaqoumi, ça ne me revient pas. Quand on lui faisait passer les messages de Moussa, alayhi salam, et que cet homme-là essayait de convaincre Pharaon que, écoutez, est-ce que vous allez châtier une personne parce qu'il dit Allah, c'est son Seigneur, et ainsi de suite. Il y a pas mal de versets, c'est, selon certains savants, cette personne-là faisait partie de la descendante de Pharaon, mais lui, il croyait en Moussa alayhi salam, et il a été épargné. Et après, il y a l'avis de certains, on va dire, contemporains, mais là, c'est à prendre avec des pincettes, selon eux, c'est lui, Dhul Qarnayn. Selon eux, c'est lui, Dhulqarnayn, qui a démarré son voyage après cette époque pour aller à la recherche de la vérité. Mais là, c'est tout un autre sujet. Ce qui nous intéresse, c'est que la puissance du peuple de Ad, du peuple de Thamoud, du peuple de Fir'aun, فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَا, plus de traces de ces peuples après la destruction d'Allah Azza wa Jal. Ça nous fait comprendre que quelle que soit la civilisation, quelle que soit sa richesse, quelle que soit l'avancée d'une civilisation, si Allah décide de reprendre, de détruire, Allah détruit. Qui me rappelle le verset qui montre que ce sont des jours qui s'enchaînent et que Allah peut donner le pouvoir à certains et le lendemain reprendre. « Wa tilkal ayyamu nudawiluha » Ce fut une époque où, en Afrique, c'était l'Éthiopie qui était le pays le plus puissant, une des puissances. Habasha, ensuite, enfin pas ensuite, il y a une époque c'était les Romains, une époque c'était les Grecs. À notre époque, on connaît c'est quelle civilisation, mais ça peut changer. Là, on a ce qu'on appelle des pays émergents, qui normalement seront les puissances de demain. Allah seul le sait. C'est-à-dire que Allah peut donner ce pouvoir à qui il veut, la richesse à qui il veut, mais ce qu'on retient, c'est que quand Allah décide de reprendre, il n'y a plus de traces de ces personnes. Inna lamma tara al-ma'a hamalnakum fil jariya. Après là, il y a quelques versets qui décrit comment est-ce qu'Allah a sauvé ceux qui étaient avec Nuh alayhi salam. Le verset 10. C'est nous qui, virgule, quand l'eau déborda, vous avons chargé sur l'arche, afin d'en faire pour vous un rappel que toute oreille fidèle conserve. Et selon Ibn Kathir, il s'agit de l'arche de As-Safina, le grand bateau, et de Fir'aun, et le grand bateau de Nuh alayhi salam, et c'est par ce bateau, donc Allah a inspiré à Nuh alayhi salam de construire, que les croyants ont été sauvés. Et selon Qatada, abqallahu as-safinata hatta adrakaha awailu hadhihi al-umma, Allah azza wa jalla a laissé cette arche, ce bateau, en bon état de conservation, afin que les premières personnes de cette communauté puissent voir et donc reconnaître les signes d'Allah Azza wa Jal. Et ce qui nous intéresse, c'est « وَتَعِيَهَا أُذُنُ وَعِيَا » afin d'en faire pour vous un rappel. Et le croyant intelligent, c'est celui qui trouve le rappel à travers les signes d'Allah, à travers les histoires, à travers les récits, à travers la destruction des peuples précédents, à travers وَلَعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ, à travers le fait que les croyants, les pieux, ce sont eux qui ont eu le succès, même si durant toute l'histoire, on les considérait comme les égarés et les opprimés, mais en finalité, c'est à eux qu'Allah donne la victoire, que toute oreille fidèle conserve. Pourquoi est-ce que ce verset est important? Ça prouve que le croyant, il a l'oreille, il a les yeux, et il a surtout le cœur. Il voit la vérité. Quand Allah envoie un signe, Allah lui donne tawfiq de voir et de comprendre. Alors que celui qui est dans l'obscurité, comme on l'a vu pour Fir'aun, quand la mer s'ouvre, c'est par les péchés ou par l'orgueil que la personne ne voit pas la lumière, alors que la lumière est accessible et visible. Hada. Ensuite, nous passons à une autre partie, une autre thématique totalement de la sourate Al-Haqqa. Ça démarre au verset 13. Fa'idha nufikha fi s-suri nafkhatun wahida. Puis quand d'un seul souffle on soufflera dans la trompe. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahida. Et que la terre et les montagnes seront soulevées puis tassées d'un seul coup. Dakkatan wahida, d'un seul coup. Et le verset avant, nafkhatun wahida. On soufflera de la trompe d'un seul souffle. C'est-à-dire, là on a compris, on parle de la fin du monde et de la résurrection. Ibn Kathir, rahimahullah, dit que يَقُولُ تَعَالَ مُخْبِرًا عَنَ هُوَالِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Allah Rabbul Izzah décrit l'au-delà. Et pourquoi l'au-delà a pris l'histoire des peuples précédents? Afin de voir maintenant, après avoir vu quelle fut la destinée de ces peuples de ce dunya, maintenant qu'est-ce qu'Allah leur réserve dans l'autre monde? Parce que c'est ce monde al-haq, c'est ce monde, cette étape qui est incontournable, et c'est cette étape où les réalités, la vérité apparaît. Leur destruction fut une preuve qu'ils étaient dans le feu et leur façon d'être ressuscités et d'être châtiés le jour de Qiyama, ce sera la preuve la plus évidente qu'ils étaient dans la perdition. Et Allah Rabbul Izzah commence par le fait de souffler dans Nafratul Faza', le souffle dans la trompe, on ne dit pas trompette, dans la corne plutôt. La bonne traduction, c'est la corne qui est une corne immense par l'ange. Selon certains riwayats, on parle de l'ange Israfil alayhi salam, et ensuite thumma ba'daha nafratul qiyam. Il y a le souffle pour la destruction de ce dunya, et quand Allah Rabbul Izzah décrète quelque chose, c'est kun fayakun. Allah l'ordonne et les choses s'exécutent. Combien de temps il faut pour détruire un immeuble de 10 étages? Je dis pas presque autant de mois que pour le construire, mais si vous avez eu l'occasion de voir les travaux à une certaine époque, au temps de Haram, à Mecca, à Medina, qu'il y avait de grands hôtels qu'ils devaient détruire, ça prenait un temps fou de détruire un immeuble. Hein. Je ne sais pas si vous avez connu l'hôtel Al-Attas, Al-Kawthar et Koguer, et ainsi de suite. C'est des grands bâtiments pour détruire, c'était un chantier. Parce qu'on ne peut pas détruire comme ça, ça ne se fait pas. Alors que notre Rabb, notre Seigneur, lorsqu'il décide que pas une région, c'est le alam, ce dunya soit détruit, c'est un souffle, fissour, et l'ordre d'Allah s'exécute. Et la volonté d'Allah s'exécute, se vérifie, et personne n'a son mot à dire, et il n'y a strictement aucune résistance. C'est là une manifestation infime du pouvoir d'Allah Azza wa Jal. Et maintenant, le même instrument, hein, la même façon, le même son qui détruit, c'est ce même son qui ressuscite toute la création. Bi-idhnillah. Le même moyen pour détruire, le même moyen pour ressusciter, ça veut dire que tout est dans les mains d'Allah. Les asbab, c'est Allah qui décide quel est le asbab, même sabab, même moyen, on peut dire, même intermédiaire, pour deux contraires, pour deux choses opposées. Destruction et reconstruction, ressources, retour à la vie. Et ce retour à la vie, c'est pas les personnes qui ont été détruites uniquement, c'est toute la création. Tous ceux qui ont respiré un peu d'oxygène, chaque être vivant, même les animaux, même les animaux, ils retrouvent le ruh qui rentre de nouveau dans le corps qui est restitué, qui est reconstitué le jour de la résurrection. Ça, c'est le nafra de Al-Qiyam, li Rabbil Alamin, wal-ba'thi, wal-nushur. Ils n'y croyaient pas. A'ad wa Thamud, ils n'y croyaient pas. Pharaon, n'y croyait pas. Lout alayhi salam, le peuple de Lout alayhi salam n'y croyait pas. Ben là, ils sont ressuscités et de même, ils voient la vérité en face d'eux, ce que les anbiya alayhi salatu wa salam leur avaient annoncé. Wa qad akkadaha huna bi annaha wahida. Ibn Kathir rahimahullah insiste sur le terme nafratun wahida. Vous voulez dire pourquoi? Li anna amra Allahi لا يخالف ولا يمانع ولا يحتاج الى تكرار ولا تاكيد. Quand Allah ordonne quelque chose, les anges exécutent immédiatement sans qu'il y ait nécessité de répéter ou de refaire l'annonce une deuxième fois. Quand Allah l'ordonne, les anges exécutent immédiatement. Dans certains hadiths, il décrit l'ange Israfil alayhi salam qui garde ses yeux rivés vers le arche, vers le trône d'Allah azza wa jal, avec cette crainte de ne pas avec cette crainte d'avoir du retard sur l'ordre d'Allah pour souffler fissour, hadith. Ce qui prouve que le qiyama peut avoir lieu à n'importe quel instant, là, parce que l'ange est déjà prêt. Après, bien sûr, il y a les signes qui doivent se réaliser, ainsi de suite, mais on comprend que l'organisation d'Allah, elle est parfaite et elle est déjà mise en place. Hada. وحملت الأرض والجبال فدكتا لو سي دكة واحدة par un coup, tassé d'un seul coup la terre et les montagnes. Subhanallah, quand nous voyons les montagnes, nous admirons notre piton des neiges, notre piton de la fournaise, ou nos cirques de Mafat ou ainsi de suite, ou les belles montagnes de Elbourg et de Salazie, et que vous allez en métropole, vous admirez. Là, je ne peux pas vous dire le nom des montagnes de métropole, mais il y en a qui sont très belles aussi. Deux exemples, s'il te plaît. Oui, bien sûr, le Mont Blanc. Mais ça, c'était trop facile. Je veux deux autres exemples. Le Jura, et après les Pyrénées. Et ainsi de suite. Si on va en Italie, la frontière entre la France et l'Italie, Il y en a qui... Les Alpes, voilà. Je savais, mais ce n'était pas vous tester. Barakallahu fikoum. Donc, toutes ces montagnes et l'être humain, comment est-ce qu'il se sent petit face aux montagnes? Autant on est admiratif quand on est face à un océan, lorsqu'on voit la plage, on voit la mer, on est impressionné. D'accord? Mais autant quand on est près d'une montagne, on se sent vraiment tout petit. Et il y a une shirah al-sadr, c'est comme si que la poitrine se remplit de bonheur à la vision de ces montagnes. Mais pensez à dakkatan wahida. En un coup, les montagnes sont tassées. C'est comme si vous avez des petits, je sais pas, d'un exemple tout bête, des petits carrés de sucre, et vous tapez dessus, et tout est réduit en poudre et tassé, mais même, c'est pas ça encore. Parce que tout doit être tassé pour faire une surface la plus large possible pour accueillir la terre, pour préparer la terre de la résurrection, une terre qui va contenir l'ensemble de la création. Et plus de montagnes également, parce que le Coran, il est stipulé, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا. Une surface aplanie, où il n'y a, la traduction est approximative, aucun endroit surélevé, ni d'endroit qui est rabaissé. Il y a un autre terme plus précis, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'endroit où il y aura de l'ombre. C'est une terre totalement aplani, c'est la terre du Mahshar. Et le terme le plus impressionnant, enfin, tout est magnifique, mais moi ce qui me touche c'est وَنْشَقَّتِ السَّمَاءِ فَهِيَ يَوْمَ إِذِيُّ وَهِيَ. On a vu la terre, on a vu les montagnes soulevées, puis tassées d'un seul coup. Vous imaginez, lorsque le monde sera détruit, les montagnes seront soulevées. Ajib. Lorsqu'on voit les images du cyclone aux États-Unis et dans ces régions-là, on est impressionné. Mais là, on ne parle pas. Quand on voit les ouragans, les tornades, on voit des voitures qui sont prises, on est impressionné. Mais là, on ne parle pas d'objets, on parle de montagnes, subhanallah. Preuve de la puissance d'Allah. Et le ciel se fendra et sera fragile ce jour-là. Ibn Abbas, radiallahu anhuma, il commente, فَهِيَ يَوْمَ إِذٍ وَهِيَ. Ça a été traduit par fragile. Il est selon lui, c'est مُتَخَرِّقَ. C'est-à-dire, le ciel sera déchiré. Le ciel sera fendu. Et dans d'autres livres, التذكرة de Al-Qurtubi, rahimahullah, il décrit le ciel qui va s'émietter comme du coton. Parce que quand vous prenez du coton et vous émiettez, le ciel sera éclaté de cette façon. Et lorsque le ciel va se briser et le ciel va s'ouvrir, c'est là que le monde des anges va apparaître et que les hommes vont voir les malaïkas qui descendent des cieux. Il y a un hadith qui est magnifique qui décrit les anges du premier ciel et ainsi de suite, deuxième, troisième ciel, qui descendent et qui se mettent en cercle autour de la terre de Macha, de la terre de résurrection, parce qu'ils forment une barrière autour d'eux des personnes ressuscitées. Et ça rejoint le verset en ce jour, Einal Mafar, où fuir, sens du verset, mais aucune fuite possible en ce jour, parce que c'est Allah qui l'a décrété et parce qu'Allah a mis ses malaïkas qui entourent toutes les personnes qui sont ressuscitées. Un spectacle que nous allons tous voir. Mais qu'Allah Azza wa Jalla, dans sa clémence, nous donne la possibilité de contempler avec le cœur apaisé, avec des anges qui seront auprès de nous. Et ça rejoint le tafsir de Inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu. Et tatanazzalu alayhim al-mala'ikatu alla takhafu la tahzanu. Lorsque les anges rassurent les personnes, n'ayez aucune crainte, ni aucune angoisse, ni aucune tristesse. Les mufassirines disent que c'est au moment de la mort, mais également à chaque étape de l'au-delà. L'au-delà, ça commence à la mort. D'accord? Il dit lors de la résurrection également, les anges se tiennent auprès des pieux, de ceux qui ont dit Rabbunallah et qui ont fait preuve d'istiqama jusqu'à la mort, Allahumma ja'alna minhum, pour rassurer ces personnes que tout ce qu'ils sont en train de voir, ben, ça ne doit pas les inquiéter, ça ne les concerne pas. Dans un hadith, je ne me souviens plus, dans un ouvrage, il était cité que un ange rassurera les muttaqin lorsque l'enfer sera présenté, dit ne t'inquiète pas, toi tu es un serviteur d'Allah, tu es quelqu'un qui a obéi à Allah. Donc c'est la présence de ces malaïkas, la présence de ces anges le jour du Qiyamah. Donc, que ce jour-là, ce jour où nous allons contempler tout cela, qu'on le voit, mais inshallah, avec le cœur apaisé, parce que nous ferons partie des gens qui ont dit Rabbunallah et qui ont fait preuve de istiqama jusqu'à la mort. Et justement, ces anges, ou al-malak, où est-ce qu'ils se placent? Ala arja'iha. Et sur ses côtés se tiendront les anges. Wa yahmilu 'arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamaniya, tandis que 8 ce jour-là porteront au-dessus d'eux le trône de ton Seigneur. C'est le trône d'Allah Azza wa Jall le jour du Qiyama. Ce genre de verset ne doit pas être, on va dire, décrypté avec la logique humaine. C'est une information qu'Allah nous donne, mais le cerveau humain doit juste avoir une idée de ce qu'Allah veut nous dire, mais ça ne répond pas aux critères ou aux exigences de nos lois physiques. Allah qui est As-Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, qui est l'unique, pas d'ascendant, pas de descendant, celui qui est autonome, qui n'a besoin de personne, ben, ces anges-là, Allah a décidé, ça s'appelle sunnatullah, l'organisation d'Allah. Allah a décidé que ces anges soient là, au niveau de son trône, et que le verset cité, وَيَحْمِلُوا, que ces anges portent, mais Allah n'a nullement besoin de ces malaïkas. Mais c'est comme ça qu'Allah a organisé les cieux. C'est comme ça qu'Allah a organisé la terre de Mahshar. Tout comme Allah n'a pas besoin des anges qui se tiennent autour de la terre de résurrection. Allah n'a pas besoin de ces, en guillemets, de ces anges qui seront les gardiens qui empêcheront les gens de fuir lorsque le Jahannam sera présenté. Mais Allah a organisé les choses de cette façon. Et les gens le verront de cette façon. Et nous devons avoir iman et yaqin dessus. Si nous voyons qu'il y a des choses qui dépassent notre entendement, on se dit que c'est une description en rapport avec le monde de Al-Ghaib, le monde de l'invisible. Et le monde de l'invisible ne peut pas être décrypté et compris par des cœurs, par des hommes qui habitent dans le monde du visible. Parce que l'invisible, ce qui est invisible, ce qui est illimité, sur le plan quantitatif, il y en a plus que ce qui est limité et visible. C'est un peu bête ce que je dis. D'accord ? Ce qui est invisible, c'est moins concret que ce qui est visible. Ce qui est illimité, il n'y a plus de temps là-haut. Il n'y a plus d'espace non plus. Une notion, parmi les notions de base de ce monde, c'est la notion de temps et la notion d'espace. Là-haut, il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'espace. Pourquoi il n'y a plus de temps ? Parce qu'il n'y a plus de maut. L'ange de la mort sera présenté sous la forme d'un animal et sacrifié la maut. Et les gens du Jannah remercieront Allah parce qu'ils sauront que c'est Naïm, bienfait éternel. Et pour les gens de l'enfer, ce sera, on va dire, le coup fatal, savant que c'est le châtiment sans limite qu'Allah nous protège. Donc plus de temps et plus d'espace non plus. Plus d'espace parce que l'espace c'est Allah qui crée. Les limites c'est Allah qui crée. Ça c'est des choses qui dépassent l'entendement ça. C'est Allah qui crée les limites, c'est Allah qui crée le début, c'est Allah qui décrète qu'il y ait une fin. Mais pour le Qiyama, il y a un début, c'est quand Allah a créé, mais Allah a décrété qu'il n'y a pas de fin et qu'il n'y a pas de limite. Ces notions-là ne peuvent pas être comprises par notre cerveau, parce qu'il nous manque les tiroirs. C'est des tiroirs qui seront mis là-haut, les tiroirs de l'invisible. Parce que nos sens nous permettent de comprendre notre monde, pas l'autre monde. Et donc, pour revenir à ce verset, pour qu'il n'y ait pas d'interrogation ou de questionnement ou d'insufflation satanique non plus, sachez qu'Allah n'a nullement besoin de ces anges. Et attention également, ça par contre c'est beaucoup plus complexe, c'est ce que les savants dans l'ulama aqida expliquent dans des qualités comme al-istiwa et al-ulu. Ça c'est très compliqué et il vaut mieux ne pas expliquer dans un contexte où les gens ne se posent pas la question. Expliquer quelque chose qui est complexe, c'est fitna, pour ceux qui ne s'étaient pas posé la question. D'accord ? Concernant le fait qu'Allah est au-dessus et qu'Allah descend des l'étiage de la nuit, et ainsi de suite, dit, quand on analyse les textes qui décrivent Allah, qui décrivent qu'Allah descend au niveau du premier ciel, et ainsi de suite, comprenez que ça ne répond pas aux lois physiques. Parce que si je vous donne un exemple, hein, je vous parle de cette bouteille. Il est à cet endroit et il vient à cet endroit. Ça veut dire que le parcours entre là-haut et en bas, ben, c'est une superficie, c'est une dimension qui est supérieure à l'objet qui se déplace. Oui ou non ? Parce que l'objet est capable de se mouvoir, de se déplacer d'un point à l'autre, ça veut dire que le contenant est supérieur au contenu. Faites comme si vous avez compris, d'accord? Et alors que dans l'au-delà, c'est pas parce qu'Allah descend que ce qu'il y a autour d'Allah se vide et supérieur. Vous comprenez? Il n'y a aucune notion de logique ou de rhétorique, ce que vous voulez, humaine, qui peuvent être mises en application pour décrypter les textes qui décrivent l'au-delà et les textes qui nous donnent un aperçu de « Zatullah », de la « d'Allah Azza wa Jal ». Ce sont des messages qui permettent à l'homme d'avoir une idée et ça s'arrête à là. Le reste, c'est là-haut qu'on comprend et ça c'est « Iman bil Ghaib ». On ne comprend pas tout, mais on croit tout. Allahu Akbar. On ne comprend pas tout, mais on croit tout. Et on doit croire à ces textes avec plus de yaqin que le fait de savoir que j'ai des mains et des pieds, que j'existe et que je respire. Ça, c'est une conviction sans limite. Je vous donne un exemple un peu décalé, mais en rapport avec l'au-delà, pour qu'on comprenne que Allah Rabbul Izzah s'adresse à l'homme avec des termes et des mots qui sont compris par l'homme, mais ces termes, ce sont juste des messages. Et le contenu et la réalité du message dépassent les mots. Quand le prophète alayhi salatu wa salam décrit le Jannah en disant « Ma la aynun ra'at, wa la udhunun sami'at, wa la khatara ala qalbi bashar » Mais malgré ça, ce qu'aucun œil n'a jamais vu, aucun oreille n'a jamais entendu, aucun cœur ne peut concevoir, imaginer. Malgré ça, dans la sourate Muhammad, on parle des fleuves. Hudhayfa, quels sont les fleuves du paradis ? Mathalul jannati allati wa'ida al-muttaqoon. Fiha anharum min ma'in ghayri asin. Wa anharum min laban. Laban, c'est le lait. Laban il lam yataghayyar ta'amu. Wa anharum min khamri ladhati lisharibin. Fleuve de vin. Wa anharum enfin min Asalim Moussafa. Eau, lait, vin et miel. Des fleuves. Quel terme a été cité pour décrire ces réalités, ces na'im du Jannah? Anhar. Mathalul Jannah illati wa'id al-muttaqun fiha anhar. Quand nous on parle de nahr, un fleuve, quand je te parle de fleuve, tu penses à quel fleuve ici? On pense Cascade Bibon, on pense Niagara, Sainte-Suzanne, on pense l'autre là, dans le sud, là, les très jolies là. Et ainsi de suite, Saint-Philippe. D'accord? Fleuve, c'est-à-dire que l'être humain, il retient comme un imagier. Comme un enfant, on parle d'un imagier, ben, si tu montes une vache, toute sa vie, il y aura toujours un rapport avec la première image, sa conception, la première fois qu'il l'a vue. Mais c'est ce qu'on appelle, les ulama al-qadi expliquent, ça c'est l'afd mushtarak. C'est le terme commun. Entre Khaliq et Makhlouq. Mais la réalité, ça n'a aucun rapport. Quand on parle de Nahr, ce que toi tu conçois comme fleuve, même si tu parles du Nil ou d'autres fleuves immenses, mais c'est incomparable avec Nahrul Jannah, alors que tous les deux s'appellent Nahr. Lorsqu'on dit qu'Allah Azza wa Jal est Alim, Allah a la science, et on parle dans les hadiths ou dans les versets énormément de l'ilm. La connaissance, c'est le même terme. Ilm pour l'être humain et ilm pour Allah. Mais est-ce que c'est comparable? Là, wallah, ce n'est qu'un mot. Lafz mujtarak. Quand on dit qu'Allah est alim, bidhati sudur, qu'Allah est sami', entend tout, Allah est basir, l'être humain aussi entend et voit. Et ce sont les mêmes termes. Mais ce sont des termes par lesquels Allah s'adresse à l'homme pour qu'il comprenne de quoi il s'agit, mais que la réalité, al-haqiqa, Allah seul le sait. La réalité, c'est كما يليق به عز وجل. Et le verset ليس كمثله شيء. Rien ne ressemble à Allah, rien n'est semblable, n'est proche à Dieu Allah. Et ça, j'ai dit que je rentre pas dans les détails, mais je le fais. Et ça, c'est des qawaid, des règles qui nous permettent, celui qui le comprend, ça nous permet d'éviter des divergences entre Ash'ari, Maturidi, entre Athari, ainsi de suite, juste connaître que comment est-ce qu'Allah s'adresse à nous, ça évite de rentrer des divergences et de créer des fractions, de diviser les gens, et ainsi de suite. Et puis je m'arrête là parce que c'est très technique, mais ça fait partie du ilm. Allah musta'an. Voilà donc, ça c'était nécessaire parce que ce genre de verset peut interpeller. Comment des anges portent le trône d'Allah? 8 anges. Ah bon, 8 anges peuvent le faire. Ils sont assez forts. L'espace, parce que s'il y a un trône, si Allah... Vous voyez, tout ce qui nous ramène vers les lois physiques, ça peut mettre notre iman en danger. Le tout, c'est de comprendre que quand on parle de l'au-delà, oublie tout ce que tu connais. Et dis, amanna, saddaqna, sami'na, wa ata'na. On croit, ya Allah, c'est notre iman. Et on croit, subhanallah, comme si qu'on le voyait. Hada. Yawma idhin, thamaniya. Yawma idhin, tu'araduna. Et on termine avec ça. Enfin, il y avait d'autres commentaires, mais c'est un verset de conclusion pour passer à un autre thème. Yawma, même si on reviendra légèrement là-dessus. Yawma idhin, tu'araduna, la tarfa minkum, khafiya. Ce jour-là, vous serez exposés et rien de vous ne sera caché. Et ça, ça rejoint le sens du titre qu'on avait dit, Al-Qari'a, celle qui montre la vérité, également l'inévitable, celle qui montre la vérité, la tarfa minkum, khafiya, et rien de vous ne sera caché. Tout ce qu'il y a intérieurement sera exposé, les livrets de comptes, les réalités, les actions qui ont été acceptées, les actions à travers laquelle il y avait l'ikhlas, la sincérité, les actions qui étaient accomplies par riya, par ostentation, qui seront entièrement rejetées quand on le protège. En ce jour, c'est le jour de la vérité, c'est le jour de la réalité, c'est le jour du haqq, où on distinguera ceux qui étaient dans le droit chemin de ceux qui étaient dans le mauvais chemin. Qu'Allah Rabbul Izzah nous donne la possibilité de comprendre ces quelques paroles et que ces réalités pénètrent nos cœurs et qu'Allah donne tawfiq de les mettre en application et que notre iman soit renforcé par la lecture de son livre. Tawfiq illa billah. Oui, on devait faire un rappel, je devais le faire lundi aussi en ville. Et j'avais amené les cours et j'ai oublié. Et là, j'y pense, mais j'ai pas amené les textes. C'est un petit peu embêtant. Moi, j'aime pas avancer sans matin, mais il y en a. Sur WhatsApp, on est inondé de ça. Donc, du coup, mais en général, c'est quand on cherche qu'on trouve pas. Ça, c'est la règle. Les textes sur le Soum Ashura. Voilà. Siyam Ashura. On rappelle, pour l'île de la Réunion. Pour l'île de la Réunion, la lune a été visible, a été vue un jour après Makka et après, toute l'Europe, il me semble également. Donc, le 10 Muharram pour l'île de la Réunion, ce sera dimanche. Pour la métropole, c'est demain. Pour la Réunion, c'est dimanche. Et donc, le Tas, hein, le 9e Muharram, ce sera demain. Alors, justement, je ne sais pas le bon texte. Dans un hadith, le prophète, alayhi salatu wassalam, avait émis le souhait, la in baqaytu, si... je suis toujours là l'année prochaine, je jeûnerai également le 9e. Bon, ça c'était le deuxième hadith. Le hadith de base qui nous intéresse, voilà. On l'a, barakallahu fik. Faqad thabata 'ani an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu kana yasum yawm 'ashura. Les textes prouvent que le prophète sallam jeûnait le 10 Muharram. Wa yuraghibu an-nas fi siyamihi, il incitait ses compagnons à jeûner. Dans certains commentaires, il est stipulé que avant que le mois de Ramadan ne soit légiféré, le mois de Ramadan, c'était en quelle année? L'an 2 de la prophétie ou de l'Hégire? De l'Hégire, bien sûr. Barakallahu fik. Et avant, donc c'est quand le prophète Ali Salat, ça m'est arrivé à Madina, il avait vu les Yahoud jeûner en ce jour, il leur avait posé la question, ils ont dit que nous jeûnons, parce qu'en ce jour, Allah Azza wa Jal a délivré Banu Israël, a sauvé Moussa al-Islam de Pharaon. Et le prophète a dit aux Sahaba, le hadith est très connu, que nous avons plus de haqq sur Moussa al-Islam que ces personnes, nous aussi nous devons jeûner. Et donc avant l'islam, c'était le seul somme qui existait vraiment, et à tel point les Sahaba donnaient de l'importance que même les enfants jeûnaient. Et dans les hadiths sahih, il est stipulé que les mamans amenaient leurs enfants à la masjid et leur donnaient des petites pelotes de laine pour qu'ils s'amusent, pour qu'ils jouent, afin qu'ils oublient la faim. Mais même les enfants devaient jeûner le jour de Ashura, parce que c'était le seul jeûne qui existait. Après qu'on va un peu plus dans les commentaires, dit, mais lorsque le Ramadan a été prescrit, ce qui restait obligatoire, c'est le Ramadan, et Ashura, c'est une sunna, et bien sûr, ça n'a plus le caractère obligatoire. لِأَنَّهُ يَوْمُ, c'est le jour où Allah a sauvé Moussa alayhi salam wa qawmah et son peuple, wa ahlaka fihi fir'aun wa qawmah, et Allah a détruit Pharaon et son peuple. فَيُسْتَحَبُّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ صِيَامُ هَذَا الْيَوْمِ, il est mustahab pour chaque croyant et croyante de jeûner ce jour. شُكْرًا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلْ, pour remercier Allah, وَهُوَ الْيَوْمُ الْعَاشِرُ, et c'est le 10e Muharram. Et Il est mustahab, sunna, de jeûner un jour avant ou un jour après, car c'était le souhait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait émis le souhait de pouvoir jeûner l'année suivante, le 9e également, mais il n'a pas pu, il est décédé. Donc, si on peut jeûner 9 et 10, c'est profitable. Après, il y a des fatwas, des ulama, si une personne, pour une raison, je ne sais pas, professionnelle ou de santé, ben, il ne peut pas jeûner un jour avant, après, il peut jeûner un seul jour. Est-ce que la personne jeûne ou alors il vaut mieux ne pas jeûner du tout? Non, si, pour une raison valable, il nous est impossible de jeûner 9 plus 10 ou 10 plus 11, ben, si on peut jeûner que le 10e, ben, on jeûne que le 10e. Mais la sunna, c'est de faire 2 jours. D'accord? Et quelle est la récompense? L'année de péché est, Inch'Allah, pardonnée par Allah Azza wa Jal. Là aussi, on peut se poser la question. Ben, quand j'ai jeûné le jour d'Arafat, une année de péché avant et après était pardonné. Là encore une année, ben, s'il y a déjà été pardonné, pourquoi encore? C'est-à-dire que là aussi, on peut se poser plein de questions. Ben, là, il y a une promesse, il y a une autre promesse qui va dans le même sens, qui coïncide. Ou, il n'y a aucune opposition, il n'y a aucune coïncidence. Tout ça, c'est la manifestation de la clémence d'Allah. Il n'y a pas de texte où il y a deux châtiments en même temps qui arrivent. Mais il y a des textes où il y a deux rahmas qui descendent. Où il y a deux manifestations de la grâce d'Allah. Prenez-les des deux mains parce que vous ne savez pas laquelle sera acceptée. Par laquelle nous serons délivrés de l'enfer. Par laquelle nous accéderons au Jannah. Ce jour, ce jeûne Ashura, c'est un trésor ça. Il ne faut surtout pas le rater. Et faites-le, qu'on le fasse, qu'Allah nous tawfiq de le faire, avec ihtisab, avec espoir de rétribution. Ça ne doit pas être une tradition, ben, le 10 Muharram, tout le monde fait karam. Non. C'est que, à la fin, au moment où tu vas rompre le jeûne, tu dis, Ya Allah, là que je vais rompre le jeûne, Allah va me pardonner une année de péché. Et qu'on complète cette journée de jeûne avec joie. Comme si qu'on nous annonce une bonne nouvelle. Comme si vous avez des dettes. Vous devez 15 000 euros à quelqu'un. Et il dit que ce soir, à 18h20, vos dettes seront gelées et annulées. Et là, quand tu sais qu'il est 18h20, alhamdoulilah, je suis délivré. J'ai plus rien, je ne dois plus, je me sens léger. Mais de cette façon, on doit le faire avec motivation et conviction. Et faites en sorte que, pour ceux qui ont des petits frères ou petites sœurs ou des enfants, que eux aussi, ils peuvent jeûner. Si c'est des petits, ne serait-ce que le 10, en plus, ça tombe dimanche, donc c'est très bien. Qu'Allah Azza wa Jalla nous tawfiq de jeûner en ce jour. Allahumma amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifoun. Avant de compléter le doua, les savants disent, voyez, le mois se termine par des récompenses énormes. Le jeûne Arafat, c'est quel mois? Dhul-Hijjah, 12e mois de l'année. Et l'année commence par des récompenses énormes, les récompenses du jeûne Muharram. Ça montre comment Allah Azza wa Jal aime cette umma, wa ma tawfiq illa billah, subhanahu rabbika rabbil izzati amma yasifoun, wa salamun ala al-mursaleen, walhamdulillahi rabbil alamin.